Et bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Suite et quatrième temps ce jeudi d'une semaine sur la vie dans les nouveaux chemins de la connaissance. Vivre, d'ailleurs, est un drôle de verbe, plus équivoque qu'il n'y paraît, qui désigne à la fois le fait d'être en vie et l'acte de vivre quelque chose, témoignant d'une solidarité mystérieuse entre l'être au monde et l'art subtil d'en être spectateur. Vivre, c'est être simultanément dans le monde et hors de lui. C'est, par un miracle précaire, contenir dans un même geste l'intime et le lointain. Aussi la vie ne fait-elle pas l'objet d'un jugement, à moins d'être jugée partie dans un procès de mauvaise foi? Comment juger la vie quand on lui appartient? Autant se taper soi-même sur les doigts. Une condamnation de la vie, édictée par un être vivant, n'est en fin de compte que le symptôme d'un certain type de vie, écrit le grand Nietzsche, dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Barbara Stiegler, maître de conférences en philosophie à l'université Michel de Montaigne, à Bordeaux, et auteur notamment de « Nietzsche et la biologie », paru dans l'excellente collection Philosophie aux Presses universitaires de France. La culture de la souffrance, de la grande souffrance. Ne savez-vous pas que c'est là l'unique cause des dépassements de l'homme? Cette tension de l'âme dans le malheur qui la guérit, son frisson au moment du grand naufrage, son ingéniosité et sa vaillance à supporter le malheur, à l'endurer, à l'interpréter, à l'exploiter jusqu'au bout. Tout ce qui lui a jamais été donné de profondeur, de secret, de dissimulation, d'esprit, de ruse, de grandeur, n'a-t-il pas été acquis par la souffrance, à travers la culture de la grande souffrance? Bonjour Barbara Stiegler.
Bonjour.
Bonjour. Vous connaissiez les pièces de Nietzsche au piano?
Je les ai entendues il y a fort longtemps, donc je suis ravie de les entendre à nouveau.
Voilà, on est ensemble donc pour parler de Nietzsche, de la question de la souffrance chez Nietzsche et de son rapport de façon générale à la biologie. Nietzsche dit dans l'aphorisme 270 de Par-delà bien et mal qu'on peut classer les hommes d'après la profondeur que peut atteindre leur souffrance. C'est le même homme qui dit que l'une des leçons de la souffrance, c'est d'enseigner le non-sens de la souffrance. En somme, il guérit les hommes de la tentation de céder à la vertu rédemptrice de la douleur, de la souffrance. En somme, si vous souffrez, vous serez récompensé. C'est celui qui nous soigne de cette tentation. Et pourtant, il y a un dolorisme nietzschéen. Alors, à quoi ça correspond? Comment peut-on désirer la douleur quand on lui a enlevé le principe de récompense? Pense qu'il la rendrait plus digeste.
Oui, je crois que vous mettez le doigt sur une grande difficulté, l'une des grandes difficultés de la pensée nietzschéenne. En effet, d'un côté, Nietzsche est celui, et il est connu pour cela, il a été retenu pour cela dans la mémoire de nos contemporains, qui a dénoncé, et ça s'explique par son combat contre le christianisme, qui a dénoncé donc une certaine culture de la souffrance, ce que vous appelez le dolorisme. Et on peut peut-être essayer d'approfondir sur les motifs, pour tenter d'éclairer les motifs de cet antagonisme avec le christianisme. Et je peux déjà donner une indication, je pense qu'il faut aller voir en particulier du côté de Luther.
De Luther?
Oui, en particulier.
Pourquoi
oui.
Luther?
Alors pourquoi du côté de Luther? Parce que ce que Nietzsche perçoit dans Luther et plus généralement dans le luthérianisme, dans l'héritage luthérien, c'est une exaltation sous la forme l'exaltation d'un inconditionné de la passivité et une condamnation qui est liée à cette exaltation de la passivité et du même coup une condamnation de l'activité. Luther allant chercher ses arguments du côté de saint Paul. Alors, pour le dire plus simplement, chez Luther, le vrai sens du péché, ça n'est pas la chair ou quoi que ce soit, et ça il l'a vu chez saint Paul, c'est, pour le dire autrement, c'est la chair en tant qu'elle est active, en tant qu'elle a une spontanéité et qu'elle s'imagine, cette chair, avoir une force spontanée qui lui permette, du même coup, d'être active dans le monde. Voilà. C'est ça, le véritable péché, c'est ce soi actif. Du même coup, le combat contre le christianisme via Luther et via la manière dont Luther lit saint Paul, c'est le combat contre cette exaltation inconditionnelle du souffrir, de la passivité plus généralement.
Mais pourtant, l'exaltation n'est pas inconditionnelle, puisque l'une des leçons du christianisme auquel Nietzsche s'en prend, c'est précisément de spéculer en somme sur les dividendes de la souffrance. Si vous souffrez, ce n'est pas pour rien. Or, l'une des leçons de Nietzsche, de la même façon qu'il enseigne que les phénomènes ne sont pas moraux, mais qu'il n'existe qu'une interprétation morale des phénomènes, de la même façon qu'il enseigne l'inhumanité du monde, en somme le silence des choses, ou l'unicité du réel, enseignant cela, il ne peut pas souscrire, et c'est d'ailleurs l'un des objets de son combat, si combat il y a, il ne peut pas souscrire à l'idée que si nous souffrons, c'est que plus tard, encore une fois, hein, nous serons récompensés.
Oui, tout à fait. Mais ce qu'il, en amont de cette critique-là, donc de la valeur rédemptrice de la souffrance, en amont de cette critique-là, il y a, et je crois que c'est vraiment fondamental, il y a une critique. Si vous voulez, pour le dire, pour vous donner une vision plus vaste de l'œuvre Nietzsche, je crois qu'on peut la comprendre comme un double combat, à la fois le combat contre l'exaltation d'une activité inconditionnelle opposée au souffrir, et c'est le combat contre la métaphysique, contre le sujet métaphysique, pour aller vite, et de l'autre côté, en face, un ennemi ou un adversaire rigoureusement symétrique mais inverse, qui exalte le souffrir, hein, le souffrir, la passivité charnelle. Et donc, de ces deux combats, enfin, le fait que le combat soit double explique que Nietzsche puisse dire une chose et son contraire.
C'est-à-dire qu'en somme, la métaphysique à laquelle il s'en prend est une métaphysique qui adoucit l'existence en lui donnant un sens, mais qui, pour adoucir l'existence, en vient à justifier que nous puissions souffrir.
Alors là, c'est sur le fond du christianisme. Hein. Sur le fond du christianisme, il y a cette valorisation, cette exaltation de la souffrance, de la passivité. Sur le front de la métaphysique des temps modernes, pour parler un peu comme Heidegger, il y a cette exaltation du sujet strictement actif et sans passivité. Et ce que Nietzsche essaie de nous dire, c'est que nous sommes dans une époque qui souffre, précisément, ou qui est malade d'une maladie extrêmement grave, qui est la scission entre d'un côté la part passive du sujet ou du corps, et de l'autre côté sa part active. Vous voyez ? Donc d'un côté, on va avoir par exemple une morale qui exalte la vulnérabilité, la compassion pour la vulnérabilité, etc. Ombre de Dieu, ombre du christianisme. Et de l'autre côté, on va avoir une science et une technique extrêmement conquérantes. Et nous sommes complètement scindés. C'est-à-dire que d'un côté, en tant que nous travaillons, par exemple, nous sommes dans ce sujet hyperactif et strictement actif, et avec un déni complet de la dimension passive de nos vies. Et de l'autre côté, en tant que nous, par moments, nous sommes dans la morale, ou nous allons à l'église, nous allons exalter la part purement passive de la subjectivité. Vous voyez ? Et c'est ça qui pose problème à Nietzsche. Et alors, la réponse de Nietzsche contre ces deux adversaires, qui sont d'un côté donc, la métaphysique des temps modernes, de l'autre le christianisme, sa réponse, ça va être qu'il faut penser la vie et le corps, comme, et la santé, comme l'articulation intime et profonde, du début jusqu'à la fin, entre le souffrir et l'agir.
Entre le souffrir et l'agir. Mais voilà. Alors, quelle différence y a-t-il lieu de faire ? Puisque c'est une différence que vous faites vous-même dans votre livre, hein, Nietzsche et la biologie, au PUF. Quelle différence faut-il faire chez Nietzsche entre la douleur et la souffrance ?
Alors, lui, donc, dit que la grande différence, c'est que le souffrir, c'est une espèce d'archi-expérience, hein, qui définit même la vie. Alors, il s'appuie pour le faire sur un grand biologiste qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui a vraiment dominé la deuxième moitié du 19e siècle, qui s'appelle Rudolf Virchow, qui est un grand penseur de la théorie cellulaire et qui a écrit un traité de pathologie cellulaire. Alors j'en profite pour dire que Nietzsche est un très grand lecteur, très attentif de la biologie de son époque. Il s'est avalé, si je puis dire, alors même que vous savez qu'il avait des problèmes de vue extrêmement graves, il a donc toute lecture était pour lui un sacrifice. Il s'est avalé d'énormes traités de biologie cellulaire, par exemple, ou de théorie de l'évolution, ce qui est quand même assez étonnant. Et donc, je me suis intéressée à ce travail sur les sources. Et alors, il connaissait, je ne crois pas de première main, mais de seconde main, c'est certain, il connaissait donc la théorie virchovienne du vivant, à partir de la cellule.
Et c'est une théorie qui lui permettait de ne pas céder à l'illusion d'un centralisme en physiologie. C'est-à-dire que ça allait chez lui avec un refus de cette illusion qu'il qualifiera d'ailleurs dans Par de la bien et mal ou ailleurs, une illusion grammaticale finalement.
Exactement.
L'illusion du sujet, qui serait l'origine radicale de ses actions.
Il a retenu de Virchow, comme ses contemporains d'ailleurs, deux choses. Et ça va me permettre de répondre à votre question sur la différence entre douleur et souffrance. Il a retenu d'une part que l'ego, à la lumière de ce que nous apprenait la théorie cellulaire, était une illusion tardive, une sorte d'épiphénomène, par rapport au véritable vécu, qui lui est essentiellement pluriel. Avant d'être un jeu, nous sommes un nous, et notre corps est pluriel.
En somme, une forme de concrétion artificielle, d'une pluralité
c'est une
irréductible.
Voilà. C'est une collectivité.
Je est une collectivité.
Voilà.
Et donc, je est des autres.
Je est d'abord un nous. Et le jeu est toujours un phénomène terminal, superficiel, qui vient en dernier, et il s'agit évidemment de la conscience.
Et de la grammaire aussi.
Et de la grammaire aussi.
Puisqu'il dit, nous croirons en Dieu tant qu'on croit en la grammaire, comme on croit à l'idée d'un sujet tant qu'on croit en la grammaire. Parce que la structure de la phrase invite à considérer qu'on a un rapport de sujet à objet au monde.
Tout à fait, exactement. Alors, cet ego qui est secondaire, qui est terminal, qui est superficiel, donc dissimule la véritable vie du sujet, qui est une vie plurielle, qui est donc, il s'agit de la vie d'un nous. Une pluralité en lutte avec elle-même. Bon. Et alors, dans cette infravie que la conscience n'aperçoit pas trop, il y a sans arrêt du souffrir. Sans arrêt, nous sommes blessés. Alors, en ce moment même, nous ne nous en rendons pas vraiment compte consciemment, mais nous sommes sans arrêt blessés par les blessures notamment du nouveau et pas seulement. On pourra développer, il s'agit aussi de la souffrance du passé. On pourra développer. Mais sans arrêt, notre corps, qui est ce collectif dont on vient de parler, reçoit les blessures du nouveau, et par exemple nos cellules, passent leur temps à se réparer face à cette irruption du nouveau. Hein. Voilà, donc ça c'est le souffrir qui est là, au cœur de la vie, dans les couches les plus profondes de la vie. Et ce qui me permet de revenir à l'idée que le souffrir qui définit la vie, puisque Virchow dit que c'est la définition même du critère de la vie, la vie, c'est le souffrir. Et il dit dans son passage très célèbre sur la définition du vivant que la vie se définit par patio, pathos. En même temps, il dit que ce qui permet de voir que quelque chose est vivant, parce qu'à l'époque, les biologistes se demandaient quand est-ce qu'on a affaire à du vivant. D'ailleurs, question qui est toujours d'actualité. Quand est-ce qu'on passe de l'inorganique à l'organique? Ce qui permet de voir qu'on a affaire à de la vie, c'est que ce patio, pathos, est immédiatement repris dans une activité vitale. De son, je reviens à l'articulation intime, souffrir, agir. Voyez. Alors, pour répondre à votre question sur la différence entre souffrance et douleur, il y a un premier élément de réponse qui est que la souffrance est infraconsciente, elle n'est pas consciente, elle n'est pas nécessairement consciente. La douleur, c'est une interprétation par l'ego de ce souffrir. Voilà, c'est ça la grande différence. Il s'agit d'une interprétation, il s'agit d'une interprétation de la conscience, et il s'agit aussi, bien souvent, d'un refus du souffrir avec la douleur.
Dans le livre absolument remarquable qu'il consacre à Nietzsche, qui date de 1962, Nietzsche et la philosophie, Gilles Deleuze écrit ceci, prenant les deux figures cardinales de l'œuvre de Nietzsche, hein, d'un côté son référent, de l'autre côté son adversaire, c'est-à-dire Dionysos et le Christ. Deleuze écrit ceci, « En Dionysos et dans le Christ, le martyr est le même, la passion est la même, c'est le même phénomène, mais deux sens opposés. » D'une part, la vie qui justifie la souffrance, qui affirme la souffrance. D'autre part, la souffrance qui met la vie en accusation, qui porte témoignage contre elle, qui fait de la vie quelque chose qui doit être justifié. Qu'il y ait de la souffrance dans la vie, cela signifie d'abord, pour le christianisme, que la vie n'est pas juste, qu'elle est même essentiellement injuste, qu'elle paie par la souffrance une injustice essentielle, elle est coupable puisqu'elle souffre. Ensuite, cela signifie qu'elle doit être justifiée, c'est-à-dire rachetée de son injustice ou sauvée par cette même souffrance qui l'accusait tout à l'heure, elle doit souffrir puisqu'elle est coupable. Il faut garder ce texte en tête pour entendre celui de Nietzsche maintenant, interprété par Jean-Louis Jacopin, un extrait du Gai Savoir, le paragraphe 370, écoutez.
Tout art, toute philosophie peuvent être considérés comme des remèdes, des secours, au service de la vie en croissance et en lutte. Ils supposent toujours des souffrances et des souffrants. Mais il y a deux sortes de souffrants. D'abord, ceux qui souffrent de la surabondance de vie, qui veulent un art dionysien et aussi une vision tragique de la vie intérieure et extérieure. Et ensuite, ceux qui souffrent d'un appauvrissement de la vie, qui demandent à l'art et à la philosophie le calme, le silence, une mer lisse, ou bien alors l'ivresse, les convulsions, l'engourdissement, la folie. Au double besoin de ceux-ci répond tout romantisme en art et en philosophie. Et aussi tant Schopenhauer que Wagner, pour nommer ces deux romantiques les plus célèbres et les plus expressifs parmi ceux que j'interprétais mal alors. D'ailleurs, en aucune façon, à leur désavantage, on me l'accordera sans peine. L'être chez qui l'abondance de vie est la plus grande, Dionysos, l'homme dionysien, se plaît non seulement au spectacle du terrible et de l'inquiétant, mais il aime le fait terrible en lui-même, et tout le luxe de destruction, de désagrégation, de négation. La méchanceté, l'insanité, la laideur lui semblent permises en quelque sorte par suite d'une surabondance qui est capable de faire de chaque désert un pays fertile. C'est au contraire l'homme le plus souffrant, le plus pauvre en force vitale qui aurait le plus grand besoin de douceur, d'aménité, de bonté, en pensée aussi bien qu'en action, et si possible d'un dieu qui serait tout particulièrement un dieu de malade, un sauveur. Il aurait aussi besoin de logique, d'intelligibilité abstraite de l'existence. Car la logique tranquillise, donne de la confiance. Bref, d'une certaine intimité étroite et chaude qui dissipe la crainte et d'un emprisonnement dans des horizons optimistes. Feel so bad. I don't know what to do. Feel so bad. Don't know what to do, babe. A little rain keep on falling, baby, on this little love of mine. I need me a string, baby. Honey, tied all around your heart. I need me a string, baby. Honey, tied all around your heart.
John Lee Hooker sur France Culture, ça arrive pour commenter d'une certaine manière musicalement cet extrait du Gai Savoir, ce paragraphe 370 lu par Jean-Louis Jacopin et Barbara Stiegler, qui est notre invitée. Barbara Stiegler qui enseigne à Bordeaux et qui est notamment l'auteur de Nietzsche et la biologie, paru aux Presses universitaires de France dans la collection Philosophie, c'est de Nietzsche que nous parlons aujourd'hui dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à la question redoutable de la vie. La vie dont Nietzsche disait d'ailleurs qu'on ne peut pas l'apprécier, qu'on ne peut pas l'évaluer, que ce serait d'une certaine façon la déprécier que d'entreprendre de l'évaluer, Barbara Stiegler.
Oui, l'erreur étant de s'imaginer que la vie pourrait être, pour nous, sujet humain vivant, un objet de jugement éventuellement.
Alors revenons au texte, là, le paragraphe du Gai Savoir, il parle de l'homme dionysien, dans lequel il se reconnaît, ou en tout cas dont il annonce constamment l'arrivée, dont il se fait le prophète. L'homme dionysien, dit-il, se plaît non seulement au spectacle du terrible et de l'inquiétant, mais il aime le fait terrible en lui-même, et tout le luxe de destruction, de désagrégation, de négation. La méchanceté, l'insanité, la laideur lui semblent permises en quelque sorte par suite d'une surabondance qui est capable de faire de chaque désert un pays fertile. Il faut bien comprendre ici, pour l'auditeur ou pour le Nietzschéen ou celui qui se ferait de Nietzsche l'idée reçue qu'on en a en général, que ça n'est pas là du masochisme. Mmh,
tout à fait.
Mais une philosophie de l'affirmation.
Bien sûr. Alors, je reviendrai peut-être sur cette expression de philosophie de l'affirmation. Enfin, je reviendrai même assurément, parce que j'ai quelques réserves sur cette idée que Nietzsche serait un philosophe de l'affirmation, idée dont l'auteur peut être en première ligne et justement Deleuze, dont vous parliez, qui est l'un des plus grands commentateurs de Nietzsche. Je crois qu'il faudrait revenir un petit peu là-dessus. Mais avant de parler de cela, je pense que pour bien distinguer le rapport dionysien, dionysiaque au souffrir et le rapport chrétien au souffrir, c'est un sujet difficile, notamment parce que le rapport chrétien au souffrir est complètement différent selon qu'il s'agit du Christ ou de Saint Paul ou de Saint Jean. Ça, c'est vraiment fondamental d'avoir en tête ces différences. Mais pour essayer d'éclairer un peu les choses et pour revenir à notre réflexion sur la différence entre souffrance et douleur, je dirais que...
Rappelons que la souffrance est inconsciente et que la douleur serait une souffrance avec conscience d'elle-même ou formulation d'elle-même. En gros, voilà. Et dans la douleur, celui qui dit « je souffre, mon Dieu ».
Voilà. Donc je dirais que le dolorisme que Nietzsche attaque... C'est celui qui consiste à dire je souffre et je ne veux plus souffrir et je veux être délivré de la vie comme souffrance. Donc il s'agit de faire de la vie une longue expérience douloureuse dont il faudra un jour ou l'autre espérer que nous serons délivrés. Et cela renvoie au dualisme entre d'un côté une chair de souffrance et tant qu'elle est dans la vie terrestre. Et ensuite, au-delà, dans l'avenir, le nouvel éon qui est annoncé, celui d'une chair spirituelle qui ne souffre plus.
Nouvel être.
Qui ne souffre plus. Saint Paul dit très bien, on ne souffrira plus dans le nouvel éon. Donc c'est l'idée qu'il y a une culture de la souffrance jusqu'à ce qu'on soit enfin délivré de la vie comme seulement souffrance. Voilà,
Figure, alors idée, il faut le rappeler là encore, dont la, comme on dit dans le jargon philosophique, dont la figure paradigmatique, la figure par excellence, c'est Socrate. C'est la mort de Socrate. On va entendre très rapidement, c'est un texte très court, extrait du Crépuscule des idoles, dans un passage intitulé, un chapitre intitulé le problème de Socrate, qu'on a traduit aussi comme le cas Socrate, le moment dans lequel Nietzsche revient sur la dernière phrase. De Socrate.
De tout temps, les sages ont porté le même jugement sur la vie. Elle ne vaut rien. Toujours et partout, on a entendu sortir de leur bouche la même parole. Une parole pleine de doutes, pleine de mélancolie, pleine de fatigue de la vie, pleine de résistance contre la vie. Socrate lui-même a dit en mourant « Vivre, c'est être longtemps malade. » Je dois un coq à Esculape libérateur. Même Socrate en avait assez. Qu'est-ce que cela démontre ? Qu'est-ce que cela montre ?
Alors que montre, Barbara Stiegler, cette dernière phrase de Socrate, si énigmatique ? Nous sommes redevables à Asclépios d'un coq, n'oublions pas de le payer. Pourquoi payer le dieu des médecins ?
Je crois que là encore, ce que Nietzsche vise, c'est, donc là on retrouve dans la métaphysique, mais dans un sens très différent de celui que je développais tout à l'heure sur la métaphysique des temps modernes, le sujet conquérant, strictement actif, etc. Là il s'agit d'autre chose. Ce qui est visé, bon, c'est la réinterprétation aussi platonicienne de Socrate, qui va permettre de consolider l'idée que le corps est un tombeau pour l'âme, et que donc il y a une libération au moment de la mort.
Qu'en somme, la vie est une maladie dont nous guérissons en mourant. C'est la position du Socrate de Platon. Voilà. Le sens de la dernière phrase de Socrate. En somme, c'est donc l'interprétation maladive de la vie elle-même comme une maladie.
Voilà. L'idée étant donc qu'il y a deux vies. Il y a la vie terrestre, la vie corporelle, la vie de souffrance dont il faudra être délivré. Au-delà, par une autre vie qui, elle, sera délivrée de toutes ces figures du négatif.
Et donc, par opposition à cette figure qui est celle de Socrate ou celle du Christ, allons-y, chez Nietzsche, il y a la figure de l'homme dionysien. Celui qui, aime le fait terrible, le luxe de destruction, de désagrégation, de négation, la méchanceté, l'insanité, la laideur. Alors, vous avez dit tout à l'heure que, selon vous, Nietzsche n'était pas un penseur de l'affirmation. Ou en tout cas, cette affirmation-là était sujette à caution. Néanmoins, si l'homme dionysien, aux yeux de Nietzsche, aime le fait terrible, le luxe de destruction, c'est, dit-il, par surabondance, l'art de faire de chaque désert un pays fertile. Cette métaphore de fertiliser le désert sera reprise par Albert Camus dans Les Noces, où il parle d'un désert qui doit se peupler, d'ailleurs la métaphore est biblique, des eaux vives du bonheur, dans la mesure où l'on sait y vivre sans étancher la soif. Or Camus est également, en Nietzschéen qu'il est, un philosophe de l'affirmation, celui qui dit « au cœur de la révolte, sommeille un consentement. Avant de dire non, nous disons oui. » Nietzsche lui-même, main texte de Nietzsche, le présente comme un penseur résolument affirmateur, en particulier au début du gay savoir. Et le gay savoir, enfin, Barbara Stiegler, est un savoir suffisamment gay, non pas pour conjurer la tristesse, mais bien pour, dit-il, ne pas chasser nos idées noires. Mmh.
Oui, alors effectivement, tous ces éléments sont incontestables, ils sont bien dans le texte, ils sont importants. On pourrait les classer aussi sous la catégorie générale, l'expression emblématique d'amor fati. Hein.
Amour donc, du destin, hein, c'est la formule stoïcienne voilà. qu'il reprend à son
amour
compte.
Amour du destin, qui signifie, chez lui, amour de ce qui advient, amour de l'advenir. Et dans l'avenir, il y a cette dimension de négativité. Alors, pourquoi, pour ma part, j'ai quelques réserves sur l'interprétation deleuzienne. Je veux bien en dire deux mots. Il y a, par exemple, dans le texte de Deleuze, Nietzsche et la philosophie, l'idée que la pensée de Nietzsche est occupée à expulser tout le négatif. Bon, pourquoi Deleuze dit ça ? Parce qu'il est, dans le même temps, en train de combattre une autre tradition philosophique. Et je crois que cette lecture... J'ai essayé de développer ces arguments dans Nietzsche, la critique de la chair. Je crois que cette lecture, cet angle d'attaque du texte nietzschéen l'amène à dire des choses qui faussent un peu, l'appréhension de Nietzsche, à tel point qu'aujourd'hui, mettre l'accent sur la douleur, la souffrance chez Nietzsche peut paraître totalement iconoclaste parce que Nietzsche n'est pas un penseur de la souffrance, n'est pas un penseur du négatif. Vous voyez ? Donc, il y a là vraiment une discussion à avoir avec Deleuze sur la postérité de Nietzsche.
Je veux apprendre, écrit Nietzsche, de plus en plus, à considérer la nécessité dans les choses comme la beauté en soi. Ainsi, je serai l'un de ceux qui embellissent les choses, amor fati, que ceci soit désormais mon amour. Je ne ferai pas la guerre contre la laideur, je n'accuserai point, je n'accuserai pas même les accusateurs. Détourner le regard, que ceci soit ma seule négation, et à tout prendre, je veux à partir d'un moment quelconque n'être plus autre chose que pure adhésion, c'est le programme qu'il se propose de suivre. C'est un 1er janvier qui décrit ça. Ce sont ses bonnes résolutions. Certains décident d'arrêter de fumer. D'autres décident de n'être que pure adhésion. C'est le sens de sa démarche. On peut considérer que cette démarche qui consiste à être dans l'adhésion à la vie, finalement, disons-le simplement, dans l'amour de la vie, cette volonté qui est la sienne d'être dans l'amour de la vie, cette ambition qu'il a d'être dans l'amour de la vie, suppose d'aimer la vie, y compris sous ce qu'elle a de plus antipathique, de plus désagréable, de plus odieux, et donc de ne pas rejeter ce qui lui déplaît au motif que ça lui déplaît.
Il faut que le corps vivant humain arrive, et c'est l'enjeu de la pensée de l'éternel retour, de la mort fatie et de ce que Nietzsche appelle le dionysiaque, arrive à affirmer la totalité de ce qui arrive, y compris dans sa plus grande négativité. Ceci étant dit, il ne faudrait pas qu'on ramasse toute la pensée de Nietzsche dans cette idée d'une pensée de l'affirmation qui expulserait la question du négatif et qui expulserait la négativité. Je crois que ce serait un appauvrissement et j'attirerai votre attention sur ce passage qui se trouve dans la généalogie de la morale, où il parle de par-delà bien et mal, qui est un passage important, qui dit ceci. Ce que j'entends par ce mot d'ordre dangereux que j'ai inscrit en tête de mon dernier ouvrage, par-delà le bien et le mal, on comprend maintenant pourquoi, cela ne veut pour le moins pas dire...
Par-delà bon et mauvais.
Par-delà bon et mauvais. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire la différence, différence qui ne peut être que critique, entre ce qui est bon et mauvais, entre ce qui est haut et bas, etc. On est d'ailleurs cette semaine, ici même, dans une semaine consacrée à la bioéthique. Et je crois que si Nietzsche a quelque chose à apporter à l'interrogation bioéthique, c'est notamment par le fait que sa méditation sur la vie n'expulse en aucun cas les questions éthiques de différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Oui, mais quand il distingue ce qui est bien et mal de ce qui est bon et mauvais, il récuse en somme l'idée de valeurs absolues, l'idée d'un bien absolu, l'idée d'un mal absolu qui transcenderait les individus. Là où il est véritablement pertinent pour la bioéthique, d'ailleurs, on en parlait avec Guillaume Leblanc hier, quand on parlait de Canguilhem. Position peut-être nietzschéenne, finalement, de Canguilhem, quand il associe l'individu à la maladie. La maladie n'est pas séparable de l'individu. Hein. Canguilhem s'en prenait à Leurich en expliquant que l'individu et la maladie, qu'en somme le problème dans la maladie c'était l'homme, quoi, qu'il fallait évacuer ça, que c'était pas la question. Canguilhem, à la suite de Nietzsche, finalement, rattache le mal à l'individu souffrant. En parlant de bon et de mauvais, il parle de bon et de mauvais pour l'individu, en substituant à l'échelle des valeurs absolues, l'échelle relative, infiniment subtile et délicate, du bon et du mauvais, il s'inscrit dans une démarche qui est celle de l'individu souffrant. La souffrance n'est plus désincarnée. En ce sens, il est bioéthicien, si j'ose dire.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'un de ceux...
Dites-le au micro. Hein.
C'est l'un de ceux qui vont permettre de passer de la morale à l'éthique.
Alors, il faut venir ici, voilà. Justement, à cette distinction. Oui. Comment simplement distinguer la morale de l'éthique ?
Alors, c'est, vous l'avez dit vous-même, ce qui définit, l'un des moyens de définir le plus assurément la morale, c'est l'idée d'absolutiser, hein, d'absolutiser, d'inconditionner, de poser des inconditionnés, d'absolutiser et du même coup, de penser par opposition entre deux termes absolus et inconciliables.
Le bien, le mal.
Le bien, le mal.
Le noir, le blanc.
On l'a dit tout à l'heure. Le souffrir, l'agir, c'est la désarticulation qui sous-tend le dualisme. Donc, en fait, c'est parfaitement cohérent, ce que fait Nietzsche. Il s'oppose au dualisme qui oppose, par exemple, le souffrir et l'agir, et qui, en réalité, et on l'a dit aussi, est sous-tendu par une structure eschatologique.
Donc, c'est-à-dire une structure avec un but, avec la représentation voilà. D'un but, c'est-à-dire d'une récompense au-delà.
C'est-à-dire
vous ne souffrez pas pour rien.
Voilà, la vie est d'abord souffrance. Ce souffrir est un mal.
Allez-y, le royaume des cieux est pour vous.
Et ce mal, on va en être délivré dans un nouvel éon, au-delà, par une vie sans souffrance, une vie débarrassée de la souffrance et de la mort. Bon. Et donc, qui aura expulsé, elle, tout le négatif, si je puis me permettre de reprendre cette expression, en la détournant quelque peu. Donc, alors, on voit bien la structure morale dualiste qui tend à absolutiser, qui même absolutise, des inconditionnés. La pensée de Nietzsche se situe, je le disais dès le départ, dans une perspective absolument, justement, si je puis me permettre cet adverbe...
Absolument anti-absolu.
Inconciliable, parce qu'il s'agit au contraire de penser l'articulation du souffrir et de l'agir. Et c'est cette articulation, la manière dont singulièrement vous, moi, mais aussi tel animal ou tel être vivant, articule à sa façon ce dont il souffre passivement. Et ses réponses actives à cette souffrance, c'est de cette façon que chacun se singularise et, pour reprendre votre terme, s'individue. Et comment s'individuer ? Eh bien, par aussi par la différence entre ce que je considère comme bon et ce que je considère comme mauvais.
Oui, mais alors s'il est bon pour moi d'adhérer à la promesse eschatologique d'une récompense à ma souffrance, s'il est bon pour moi d'avoir la foi, dans la mesure où Nietzsche lui-même a dit que le besoin d'une foi puissante, ça c'est magnifique ça, il dit le besoin d'une foi puissante n'est pas la preuve d'une foi puissante, c'est plutôt le contraire. En d'autres termes, dans la mesure où Nietzsche, penseur tragique par excellence, considère que plus on croit en Dieu, plus on montre par là même qu'on doute de son existence, puisque plus on croit en Dieu, plus on témoigne du besoin qu'on a de croire en lui, c'est-à-dire en fait du doute quant à son existence. Mais que dirait-il d'un individu qui, sachant que Dieu n'existe pas, sachant d'un point de vue nietzschéen, comme tout le monde, que Dieu n'existe pas, n'en éprouverait pas moins le besoin de croire ou d'adhérer à cette chimère, tout simplement pour se porter mieux, voire peut-être, c'est le cas à Lourdes, pour guérir. Que répondrait-il du point de vue de l'individu qui, pour lui-même, encore une fois, du point de vue de l'individu, éprouve la nécessité d'absolutiser le bien et le mal et témoigne encore une fois par là même qu'il n'est pas dupe de ce processus. Barbara
oui.
Stiegler.
Oui, c'est une bonne question et on pourrait l'entendre sous le chapitre de la biodiversité. Après tout, ce type d'humain appartient, pour employer un terme qui est un peu anachronique pour Nietzsche, mais appartient à la biodiversité. Et là où Nietzsche est allé très loin dans la réponse à votre question, c'est qu'il a dit finalement l'enjeu pour moi, si je suis vraiment dans la morphatie, l'enjeu pour moi, c'est d'arriver à affirmer le christianisme lui-même. Arriver à aimer le christianisme lui-même. Arriver à aimer ces êtres qui pensent et qui sentent selon cette structure-là. Il le dit jusqu'en 88.
Donc, à tolérer la détestation de la vie ou la calomnie de la vie.
Voilà. Arriver à affirmer ce qui appartient à notre histoire, à l'histoire des vivants humains, notamment notre histoire chrétienne. Car Nietzsche n'était pas naïf sur cette affaire. Il savait qu'il était intrinsèquement imprégné de christianisme et singulièrement de luthérianisme. Il le dit jusqu'à la fin, je suis imbibé par mon ascendance ces problèmes qui sont les problèmes liés au christianisme.
De là d'ailleurs le fait qu'il est hérétique d'un point de vue d'orthodoxie nietzschéenne, oui. de combattre l'Église, par exemple. Quand aujourd'hui on parle, alors on parle beaucoup aujourd'hui, on se gargarise beaucoup d'un nietzschéisme de gauche qui revendiquerait le nietzschéisme tout en brandissant des valeurs absolues. En somme, adhérerait au bien et au mal, sauf que ici, le diable, ce serait Dieu. Le diable, ce serait Dieu et toutes les structures qui accompagnent cette grande chimère qui règne sur les hommes et qui les contraint et qui les prive de leur liberté. Cette position qui revendique Nietzsche n'est pas conforme à ce qu'il enseigne, dans la mesure où Nietzsche, en généalogiste qu'il est, ne peut pas absolutiser en inversant les termes le bien et le mal. C'est-à-dire faire de l'Église le mal en soi ne serait pas très nietzschéen.
Oui, je souscris totalement à ce que vous venez de dire. Et c'est pourquoi la Circé, qui nous menace toujours et qui nous tente toujours, c'est bien la morale, comme il le dit.
Donc il n'y a pas moins de morale dans l'Église que dans les contempteurs de l'Église.
Le danger, c'est de renverser, c'est d'être enfermé dans un renversement, c'est-à-dire de se mettre à exalter contre l'exaltation inconditionnelle de la souffrance, de se mettre à exalter une activité inconditionnelle, ou bien de se mettre à exalter contre ce type de croyant, celui qui ne croirait pas. Voilà, ce type de slogan, parce que quelque part, il y a quelque chose de vulgaire là-dedans. En fait, est pris dans une structure qui est celle de la morale. On inverse, mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'on lance un absolu contre un autre.
Et voilà, Wagner, guéri par Bizet, soigné par Bizet. En tout cas, tout le trajet de Nietzsche, et ça il faut le dire pour ceux de nos auditeurs qui l'ignorent encore, Nietzsche a commencé par aimer Wagner et a fini par lui préférer Bizet. Il a commencé allemand, il a fini français. De sorte que tout le travail de Nietzsche, peut-être sans absolutiser quelqu'un ou sans le désigner comme le mal absolu, consistait à rompre avec l'esprit de pesanteur, ce qu'il appelait la pesanteur germanique, c'est-à-dire Wagner, au profit de la légèreté. Barbara Stiegler.
Oui, alors deux remarques. Pour exemplifier un peu ce que nous venons de dire à l'instant, on pourrait dire que l'enjeu pour Nietzsche, dans son existence, ça a été de passer de l'amour de Wagner à la, comme vous l'avez très bien dit, à la préférence pour Bizet. Mais l'enjeu au-delà, c'est de continuer à aimer Wagner alors même qu'on s'en est séparé. C'est ça la morphatie. C'est-à-dire qu'il faut arriver à aimer tous les aspects, même les plus sinistres, de l'existence.
Et ce qu'il dit de Wagner, il le dit également de Schopenhauer. En somme, il a deux pères dont il coupe la tête, Wagner et son équivalent philosophique, qui est Schopenhauer. Schopenhauer, dont la détestation de la souffrance culmine avec un refus du désir.
Oui, absolument. Mais je voulais quand même revenir à l'exemple Wagner-Bizet. Wagner étant la maladie, Bizet étant la santé, C'est parce que c'est tout l'enjeu du rapport de Nietzsche à la santé et à la maladie. C'est-à-dire, arriver à passer de la maladie à la santé, tout en se servant et s'appuyant toujours sur l'expérience pathologique elle-même. C'est-à-dire que la véritable santé, elle passe par l'expérience pathologique. Du même coup, son moment schopenhauerien d'adhésion sans distance a supposé qu'il y en ait eu un. Parce qu'en réalité, quand on regarde le jeune Nietzsche, très vite, il y a un écart. C'est pas très étonnant. Comme son moment wagnérien, sont effectivement des moments où qu'il a décrit lui-même comme des moments de grande maladie, mais en même temps, son propre chemin, qui va être le chemin par lequel il va devenir Nietzsche, qui va lui faire préférer d'autres à ses premières amours, ce chemin devra toujours avoir une immense gratitude pour ce moment pathologique, parce qu'il se sera inventé dans la pathologie même. dans l'adhésion pathologique à Wagner comme dans l'adhésion pathologique à Schopenhauer. Donc l'affirmation nietzschéenne, parce que bien sûr il y en a une, mais elle passe par l'amour du négatif aussi, et non pas par son expulsion.
En somme, valider le négatif ou faire entrer le négatif dans sa vie serait nier le négatif lui-même, comme son nom l'indique, c'est-à-dire adopter à l'endroit du négatif une attitude elle-même négative. Le négatif triomphe à l'instant où on le déteste comme tel.
C'est-à-dire quand on croit pouvoir expulser le négatif de la vie, là, on est dans un rapport au négatif avec lequel Nietzsche entre en lutte.
Donc ce qu'il appelle la grande santé n'est donc pas le contraire de la maladie.
Voilà,
on peut y venir maintenant, parce que c'est ça qui est important. On a vu tout à l'heure ce qu'il disait de la souffrance, hein, de la souffrance, de la douleur, de son rapport au christianisme ou à la métaphysique. En somme, l'enjeu pour Nietzsche, c'est bien de comprendre que ce qu'il appelle la grande santé, ce qu'il essaie de penser comme la grande santé dont on a fait indûment l'apologie de la force physique, par exemple, hein, la grande santé, c'est l'aptitude, justement, à être capable de sa maladie.
Tout à fait. Et c'est là qu'il y a des liens très, très, très forts entre Nietzsche et Freud, bien sûr, mais aussi, bien sûr, toute la psychanalyse, mais aussi entre Nietzsche et Canguilhem. Canguilhem qui assumait pleinement cette filiation. Oui, alors en effet, que serait la petite santé ? La petite santé, et je pense que c'est important que tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, dans le monde de la santé, les en tête. La petite santé, c'est celle qui se comprend, se conceptualise, s'interprète comme l'absence de maladie. C'est celle qui interprète la maladie comme ce qui ne doit pas être, comme ce qui n'aurait jamais dû arriver et comme ce dont il faudrait se débarrasser le plus vite possible. Voilà. Ça, c'est la petite santé. Et on peut mettre cette conception-là de la santé sous le chapitre de l'hygiénisme, qui est déjà en place au XIXe siècle et qui peut être, je ne sais pas si vous en serez d'accord, mais tant à triompher aujourd'hui.
Oui, donc parmi les lectures pertinentes, contemporaines de Nietzsche, effectivement, Nietzsche est le diagnosticien du ressentiment qu'il y a derrière l'hygiénisme qui vaut aux gens de ne pas avoir le droit de fumer dans un espace public, et ainsi de suite. C'est-à-dire que on est là dans l'expression d'un ressentiment qui témoignerait à ses yeux de la petite santé, d'une volonté de vie anémiée, en somme.
Pour tout vous dire, l'exemple de l'interdiction de fumer est très cocasse, parce qu'en réalité, Nietzsche, c'est, figurez-vous, brouillé avec ses amis étudiants, ses collègues étudiants à l'université quand il était donc étudiant.
Parce qu'il fumait.
Parce qu'il refusait que l'on fume, figurez-vous. Ça le dérangeait profondément, de même qu'il était extrêmement choqué par les grandes beuveries qu'on organisait dans les collectifs d'étudiants à l'époque. Donc Nietzsche est un être très compliqué sur cette affaire, et c'est très intéressant de voir que d'un côté il a pu militer pour l'interdiction absolue de fumer à l'université et pour l'interdiction de boire de la bière, alors même que, je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Donc le défenseur de la grande santé était un grand malade, on va en parler un petit peu, voilà. Et le philosophe de l'ivresse haïssait les beuveries.
Voilà, alors il les haïssait, ça c'est la position faible, mais en réalité il était dans un rapport critique à l'ivresse, comme dans un rapport critique à toute transgression de l'hygiène. Donc ça met encore en évidence la subtilité des positions nietzschéennes. Mais pour revenir à notre réflexion sur la grande santé, je crois que vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que la véritable santé, la grande santé, c'est celle qui prend le risque de la maladie, qui fait l'épreuve de la maladie et qui trouve un chemin nouveau de guérison face à la maladie. L'idée que la maladie serait l'opposé, l'absolu opposé de la santé, et que l'homme sain, en anglais, l'homme sain serait cet homme, ce corps vigoureux qui, effectivement, ne fume pas, fait du sport, ne tombe jamais malade, etc.
Voir le blond arien.
Voilà, en fait, c'est une nouvelle figure de ce dualisme qu'on piste depuis tout à l'heure, qui oppose, là, cette fois, l'activité pure à la passivité et à la maladie de l'autre côté.
Donc, il y a plus de ressentiment chez le culturiste qui a le culte de son propre corps, par exemple, que chez celui qui assume les pathologies dont il est affecté.
Absolument. Absolument. Et du coup, reposer la question de la pathologie depuis Nietzsche, c'est absolument pas céder au ressentiment. Je dis cela contre une certaine vulgate nietzschéenne qui refuse qu'on lise Nietzsche depuis ces questions-là, parce que Nietzsche, lui, se serait débarrassé et de la douleur, et de la souffrance, et de toutes ces figures du négatif, et serait dans une dimension d'affirmation pure.
Bah allons-y, justement, d'ailleurs, Nietzsche lui-même a été malade toute sa vie, Barbara Stiegler. Non seulement il a été malade toute sa vie, mais il a même dit que s'il n'avait pas été malade, il n'aurait pas été de cette tradition, d'ailleurs, dont le premier et le plus éminent représentant, c'était Socrate, à ses yeux, hein, cette tradition, de cette lignée de philosophes médecins. Alors le problème, c'est que chez Socrate, la cure passait par la castration à ses yeux. Néanmoins, Nietzsche lui-même se vivait comme un philosophe médecin parce qu'il était un individu malade.
Oui, oui, absolument. Il est très important de rappeler que non seulement Nietzsche a constamment été malade, et d'une maladie qu'il qualifiait lui-même évidemment de physico-psychique ou psychophysique, c'est-à-dire qu'il refusait absolument qu'on puisse séparer ce qui advient dans l'ordre de la psyché et ce qui advient dans l'ordre du corps. Donc une maladie qui, à ses yeux, était autant physique que psychique. Il a été donc constamment malade et il a constamment médité la gratitude qu'il devait avoir vis-à-vis de cet état pathologique, puisque c'était cet état pathologique qui l'avait poussé à inventer une santé propre, une santé nouvelle, une santé individuée, ne se pliant pas aux standards de ce qui serait la santé et une santé sans pathologie dont je parlais à l'instant, celle de l'hygiénisme médical de l'époque.
C'est dire également que ce que Nietzsche dit du marteau, Barbara Stiegler, on dit souvent, Nietzsche, il le dit lui-même d'ailleurs, hein, « Comment ton philosophe à coups de marteau ?» C'est le sous-titre d'un de ses meilleurs livres, Ecce Homo. Mmh. « Comment ton philosophe à coups de marteau ?» On a souvent interprété ça comme le marteau de l'iconoclaste, celui qui veut tout casser, celui qui n'est pas content, qui veut tout casser, le lion hein, qui proteste contre le monde tel qu'il est. Alors que le marteau dont il parle, c'est également le marteau du... Alors, vous me faites le signe là, il faudrait vous filmer. C'est le marteau, évidemment, du pianiste, mais du piano, mais c'est également le marteau du médecin, celui qui prend le pouls de son patient.
Absolument, hein, c'est particulièrement bien expliqué dans le Crépuscule des idoles. Il s'agit d'ausculter les idoles, d'ausculter non seulement les idoles, mais plus généralement les fictions, en essayant de se demander si les fictions, les idoles, comme plus généralement les fictions, parce que ce n'est pas exactement la même chose, rendent ou non un son de vanité. Si elles sont, ces fictions, nécessaires, plus ou moins nécessaires, si elles sont vaines. Voilà. Donc il s'agit d'ausculter nos représentations, musicalement d'ailleurs.
Alors on va entendre avec vous, Barbara Stiegler, on arrive au terme de cette émission, et c'est à Nietzsche, puis à Alain Souchon, qu'on va laisser le soin de conclure cette émission en votre compagnie. D'abord, le paragraphe 324 du Gai Savoir, puis une chanson de Souchon dont le titre dit exactement en vérité l'inverse de son propos, vous allez comprendre, écoutez.
In media vita. Non, la vie ne m'a pas déçu. Année après année, je la trouve au contraire plus vraie, plus désirable et plus mystérieuse. Depuis ce jour où la grande libératrice est descendue sur moi, cette pensée que la vie pourrait être une expérimentation de l'homme de connaissance, et non un devoir, non une fatalité, non une tromperie. Et la connaissance elle-même, elle peut bien être pour d'autres quelque chose d'autre, par exemple un lit offrant le repos, ou le chemin menant à un lit offrant le repos, ou un divertissement, ou une oisiveté. Pour moi, elle est un monde de danger et de victoire, dans lequel les sentiments héroïques aussi ont leur lieu où danser et s'ébattre. La vie, moyen de la connaissance. Avec ce principe au cœur, on peut non seulement vaillamment, mais même gaiement vivre et gaiement rire. Et qui s'entendrait à bien rire et vivre en général s'il ne s'entendait d'abord à la guerre et à la victoire ?
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à un tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs. Joli petit sein de mon ami, là je dis rien.
grand merci, Barbara Stiegler, d'être venue nous voir. Un regret hein, pour cette émission, on n'a pas parlé de Darwin, vous me le disiez hors micro. On le fera, certainement, peut-être, l'an prochain, au Nouveau Chemin de la Connaissance, si les dieux de la radio nous prêtent vie. Je rappelle, Barbara Stiegler, que vous enseignez à Bordeaux. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux, l'Université Michel de Montaigne. C'est de la grande santé nietzschéenne que nous venons de parler ensemble. De vous, je signale deux ouvrages, Nietzsche et la biologie aux presses universitaires de France et, plus volumineux, Nietzsche et la critique de la chair, Dionysos, Ariane, le Christ, toujours aux presses universitaires de France. Dans l'agenda culturel des Nouveaux Chemins de la Connaissance, je vous signale la parution d'un résumé des œuvres complètes de Freud. La démarche est audacieuse, sous la direction de Laurence Joseph et Céline Masson, chez Hermann. Et puis tiens, encore un livre aussi d'ailleurs, le livre d'Alexandre Lacroix, « Quand j'étais Nietzschéen », ça vient de paraître, chez Flammarion. Les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis... Demain, suite et fin de cette semaine sur la bioéthique ou la vie dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, on parlera d'immortalité avec Jean-Michel Beignet. À la technique aujourd'hui, Ariane Herbet, à la réalisation, Cédric Ossir, assistante évidemment, Geneviève Méric, Adèle Vanrette, Jennifer Murzo, Florence Malfatto, France Culture, 17h50, tout de suite, Albert Jacquard.